Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, non plus comme vice-président, mais à la tête de l'État cette fois-ci, Joe Biden défie les analystes qui voyaient en lui un chef de l'État timoré, parce qu'âgé, 78 ans. À peine installé, il a lancé un plan de relance de 1900 milliards de dollars.
Cette nation a beaucoup trop souffert, trop longtemps. Et tout dans ce plan est destiné à soulager la souffrance et à répondre aux besoins les plus urgents de la nation pour qu'on soit dans une meilleure condition. À commencer par battre ce virus en vaccinant le pays. Ce plan va permettre d'envoyer les chèques d'aide dès ce mois-ci aux Américains qui en ont désespérément besoin. Pour eux, cela signifie que les prêts peuvent être payés, que les enfants peuvent aller à l'école, que la couverture médicale peut être payée. Ça va faire une réelle différence dans le quotidien de tellement de gens de ce pays.
1900 milliards de dollars pour ce premier plan, mais ce n'est pas le seul que mijote Joe Biden. Un autre plan encore plus massif, 3000 milliards de dollars au total, pour les infrastructures est en cours de négociation avec le Congrès. Plus encore, Joe Biden prévoit d'augmenter les impôts, en particulier pour les entreprises. Alors, est-ce une révolution, comme beaucoup le disent, ou un virage prononcé? Quels sont les éléments de cette politique, leur impact prévisible sur l'économie américaine et qui en bénéficiera au final, la grande masse des citoyens américains ou les financiers de Wall Street? Voilà en très bref et de manière peut-être un peu caricaturale les questions que nous allons poser aux trois invités qui ont accepté l'invitation d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Bonjour Véronique Riche-Flores.
Bonjour.
Véronique Riche-Flores, vous êtes économiste indépendante, vous publiez des analyses sur l'économie française, mondiale, auxquelles de nombreuses entreprises sont abonnées, dont elles sont friandes. Avec vous dans cette émission, Jérémy Guez. Bonjour Jérémy Guez.
Bonjour.
Jérémy Guez, vous êtes professeur associé à HEC Paris, la grande école de commerce française. En 2018, vous avez publié un livre qui a une résonance toute particulière aujourd'hui dans cette émission. Il s'intitule « États-Unis, déclin improbable, rebond impossible » et il est publié chez VA Presse. Enfin, je termine ce premier tour de table virtuel, vous l'aurez compris, personne en studio, tout le monde au téléphone. Avec vous, Jérôme Héricourt, bonjour.
Bonjour.
Jérôme Héricourt, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Lille et conseiller scientifique au CEPI, le principal centre de recherche en économie en France sur les questions internationales. Et puis, outre ces trois invités qui vont nous éclairer tout au long de l'émission, des reportages, beaucoup de reportages dans cette émission. Nous avons rendez-vous avec la correspondante de RFI aux États-Unis, Anne Corpet, qui s'est rendue en Louisiane, avec Lumna Anaki à New York pour un reportage sur les infrastructures américaines fort délabrées, et avec Thomas Arms au Texas, qui nous parlera de la réaction de l'industrie pétrolière face à la politique de Joe Biden. Je le disais, un plan dans les tuyaux, 3000 milliards de dollars, un autre qui a déjà été acté, voté, dont les chèques commencent à irriguer l'économie américaine. En trois mois, Biden a tapé un grand coup sur la table. Quelle est la situation économique aux États-Unis aujourd'hui, Véronique Riche-Flores? Est-ce que cet argent que Biden a décidé de déverser dans le pays arrive déjà dans les comptes, sur les comptes en banque, et est-ce que ça relance l'économie?
Bien, eh bien oui, cet argent, les chèques sont arrivés et nous en avons eu la première illustration avec des données du mois de mars, notamment des ventes de détail qui ont progressé de quasiment 10%, qui ont été publiées cette semaine. Également des chiffres de l'emploi au mois de mars qui étaient en forte progression, on n'est pas loin du million d'emplois créés. Alors, tout ceci doit être mis dans la perspective du retard des mois et trimestres passés. Néanmoins, effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'une bonne partie de cet argent, notamment aux plus démunis des Américains, a été consommée. Une autre partie est en train de servir à payer des arriérés de loyers, de factures d'électricité, etc. Et c'est assez intéressant parce que les enquêtes montrent qu'effectivement, dans les dépenses, dans l'utilisation, pardon, de ces chèques pour la dépense, une bonne partie, quand même, est allée à la consommation alimentaire. Ce qui donne quand même le sentiment que ces avances ont servi à combler un certain nombre de frustrations qui résultaient de la situation de crise de ces derniers mois. Alors, on est loin d'être sorti de l'auberge. L'économie américaine a encore un retard de 3% sur un an, ce qui correspond d'habitude à une récession assez marquée. Et n'a toujours pas comblé, bien évidemment, les pertes de la première moitié de l'année 2020. Mais ces mesures de soutien sont effectives. D'ores et déjà, on peut le constater.
Véronique Richflores, vous venez de dire que beaucoup des chèques étaient partis dans l'alimentation. Est-ce que ça veut dire que les Américains avaient besoin de cet argent pour pouvoir se nourrir? Jérôme Héricourt, est-ce que la situation des ménages américains est si détériorée que ça?
Ça dépend effectivement. Hein. Si vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis l'année dernière, c'est vrai, bon, on a eu une récession. Véronique Richflores le disait à l'instant, on a eu une récession assez marquée. Pour autant, elle n'a pas été énorme selon les standards historiques et en comparaison internationale. Hein, le PIB a diminué de 3,5-4% en 2020, c'est gros, mais c'est pas tellement plus gros que ce qui s'est passé en 2008-2009. Et surtout, si on compare aux chiffres de certains pays de la zone euro, dont la France, hein, la France en a fait moins 8,2, moins 11 en Espagne, c'est une récession qui est quand même qui a été relativement limitée. Et aux États-Unis comme en France, le revenu des ménages a été relativement préservé par les mesures de compensation de l'État fédéral.
Parce qu'il faut dire que Trump avait déjà commencé à distribuer de l'argent, quand même beaucoup.
Alors, absolument, on parle beaucoup du plan Biden et on a raison, hein, on va revenir dessus, j'imagine. Mais il y a eu un accord bipartisan au Congrès en décembre qui déjà mettait 900 milliards de dollars sur la table, dont un chèque de $600 à chaque Américain gagnant moins de $75,000 par an. Donc il y avait déjà eu un package de mesures significatif. Et donc là, ce que fait Joe Biden, il arrive et il remet donc plus du double de cette somme sur la table. Il y avait déjà eu effectivement des mesures de soutien. Alors évidemment, le choc a été quand même d'une violence rare. Il y a 22 millions d'emplois qui ont été détruits. Il y en a 13 ou 14 qui ont été récupérés depuis. Donc il y a encore du chemin à faire. Et si le plan Biden fonctionne, selon les prévisions du FMI, l'économie américaine reviendra au plein emploi à l'horizon 2022. Donc une partie du chemin a été fait, mais il y a encore effectivement de la marge de récupération.
Jérémy Guest, quand Jérôme Héricourt dit horizon 2022, ça veut dire fin 2021, l'économie américaine aura récupéré sur ce qu'elle avait perdu comme terrain depuis l'an dernier?
Je pense que c'est le scénario effectivement positif. Alors il y a un autre scénario quelque peu plus négatif, c'est que effectivement, donc Jérôme vient de le dire, il nous manque à peu près 10 millions d'emplois qui ont été détruits et qui n'ont pas été recréés depuis le début de la crise. Un certain nombre d'économistes, vous savez, la plaisanterie c'est de dire que à la faveur de chaque crise, on réapprend l'alphabet et on se demande est-ce que la reprise aura la forme d'un V avec une reprise rapide, est-ce qu'elle aura la forme d'un W, elle sera hésitante. Il y a une nouvelle lettre qui a fait son apparition avec cette crise-ci, c'est la lettre K. Cette idée de dire qu'il y a toute une partie de la population et un certain nombre de secteurs économiques qui savent tirer largement leur épingle du jeu, ce sont les populations les plus éduquées, les cols blancs comme on les appelle, et puis un certain nombre d'industries liées au logiciel, liées au retail, je dirais à toutes ces industries qui ont de la technologie, quoi, les nouvelles technologies qui nous ont permis de survivre pendant cette crise. Mais il y a aussi toute une partie de la population et toute une partie de l'économie qui a énormément de mal à rebondir. Donc c'est cette partie basse du cas, la barre basse du cas, qui risquerait de connaître des difficultés extrêmement prolongées. Alors maintenant, est-ce que c'est lié effectivement à cette pandémie? Je pense que la pandémie a été un sévère accélérateur, un choc brutal, mais c'est vrai que toutes ces industries et cette partie de la population font face aussi à des difficultés structurelles qu'il va devoir essayer de, enfin, le pouvoir américain essaie d'y remédier aujourd'hui, et effectivement, d'ici 2021, ça risque d'être un petit peu court.
On va aller sur le terrain. Le plan de relance suscite bien sûr beaucoup d'attentes un peu partout. En Louisiane, près de la Nouvelle-Orléans, les professionnels du tourisme se battaient les flancs lorsqu'un corpée est allé leur rendre visite. Ils attendent, ces professionnels du tourisme, les visiteurs qui ne viennent plus, et l'échec du plan de relance sont bien sûr les bienvenus. Écoutez ce reportage d'Anne Corpet.
C'est la petite cloche pour appeler les visiteurs à se rassembler pour le début de la visite. Mais j'ai pas tellement besoin de cette cloche, malheureusement. D'habitude, c'est le début d'une des saisons les plus occupées de l'année. Mais avec la pandémie, il n'y a pas grand monde qui voyage.
Joseph Dune est guide à la plantation Laura, à près d'une heure de la Nouvelle-Orléans. Le site fait partie des lieux visités par les touristes de passage et subit de plein fouet la chute dramatique du nombre de visiteurs.
On constate une baisse de plus de 90% de fréquentation depuis le début de la pandémie. C'est difficile. On a dû un peu bricoler avec les programmes fédéraux qui ont été mis en place. Cette infusion d'argent, ces prêts, ces subventions, nous ont vraiment permis de continuer et à garder nos employés et à proposer des visites de ce lieu culturel et historique important.
À quelques kilomètres de là, Joe Bonner tient un petit café dans une jolie maison rose sur la route des plantations. Elle non plus n'aurait pas survécu sans l'aide fédérale.
We're open, we have modified hours.
On est ouvert, on a modifié nos horaires et nos clients locaux viennent. Mais bien sûr, ce sont les touristes qui nous apportaient de l'argent. Et nous avons perdu cela. On ne sait pas quand cela reviendra. On a obtenu les prêts du gouvernement, ça nous permet de tenir. Mais on cherche des moyens de garder de l'argent.
Vous attendez le nouveau plan de Joe Biden pour l'économie ?
Oui, bien sûr, on en a besoin. Pas seulement moi, je suis chanceuse, au moins je suis encore ouverte. Mais il y a tant d'attractions et de restaurants qui ont dû fermer.
Au coin d'une rue, dans le vieux quartier français de la Nouvelle-Orléans, Christina Caminis chante en espérant récolter quelques dollars auprès des rares touristes. Sans les allocations chômage, dit-elle, survivre lui serait impossible. L'adoption du plan de sauvegarde de l'économie lui garantit que ses prestations continueront.
Reportage d'Anne Corpet dans la Louisiane confrontée au chômage, à la baisse de revenus. Jérémy Guez, ce reportage a été tourné il y a quelques semaines, alors que le plan Biden n'était pas encore complètement déployé. Est-ce que vous pensez que si on retournait voir aujourd'hui cette chanteuse, ces guides touristiques, ces responsables d'exploitation de zones touristiques, ils seraient dans une meilleure situation économique ?
En tous les cas, ils seraient probablement dans un meilleur état d'esprit. Ce plan Biden montre bien la volonté de l'État fédéral de continuer ses efforts dans la poursuite contre l'incendie que cette crise a représenté. Et on sait qu'en économie, déjà l'état d'esprit est déjà très important, puisque l'incertitude qui pèse est souvent liée à la psychologie des acteurs économiques. Et donc là, je pense qu'il y a un élan économique autrement meilleur. Mais le problème, effectivement, qui se pose, c'est de se dire, est-ce que on va avoir une reprise en V, une reprise rapide, finalement, dès que l'économie et dès que la situation sanitaire va s'améliorer, ou est-ce que ces secteurs connaissaient des difficultés structurelles qui risquent de persister à terme? Et ça, pour moi, c'est la question clé pour permettre, d'évaluer l'état de ces acteurs dont on vient d'entendre le témoignage.
Véronique Riche-Flores, vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'effectivement, il y a une économie américaine qui est en train de dépérir et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il soit arrivé, pandémie ou pas, ce secteur de l'économie américaine aurait connu la crise?
Je crois qu'il y a une économie américaine en souffrance depuis longtemps, effectivement, avec, et ça a été mentionné, un gros sujet autour des inégalités. Des inégalités qui font, alors, et c'est là qu'il faut faire attention, parce que les promesses, par exemple, de retour au plein emploi, reste à savoir ce qu'on considère le plein emploi. On sait qu'aujourd'hui, et ça a été le cas depuis quasiment 10 ans maintenant, même un peu plus aux États-Unis, beaucoup d'Américains ne disparaissent tout simplement des statistiques puisqu'ils n'ont plus aucune chance ou considèrent qu'ils n'en ont plus de trouver un emploi. Et donc, ces disparitions de statistiques font des gens qui ne sont plus inclus à la vie professionnelle, à la vie économique, qui sont de plus en plus pauvres et de plus en plus fragiles. Et on a très bien vu la résultante de cela dans la perte de dynamisme, par exemple, de la consommation courante et dans le creusement effectif des inégalités. Donc, il y a effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Et peut-être l'illustration la plus nette, c'est ce qui s'est passé par exemple dans le commerce de détail ces dernières années, c'est-à-dire un secteur dans lequel la digitalisation est allée beaucoup plus vite qu'en Europe. Et un secteur qui, traditionnellement, entre la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 2000...
Donc, fin de la Seconde Guerre mondiale, 1945, on précise pour nos jeunes auditeurs.
Oui, jusqu'au début des années 2000, a été le secteur cyclique qui procurait de l'emploi peu qualifié, que ce soit dans la restauration, dans les commerces, etc. Et ces emplois-là ont commencé à être beaucoup, beaucoup moins abondants ces dernières années, en particulier parce que remplacés par des nouvelles technologies, ce qui a fermé la porte de l'emploi à toute une catégorie de la population peu qualifié. Et à partir de là, le miracle américain s'éteint. Et il s'est éteint de très longue date en réalité et explique cette situation et finalement la fragilité qui en résulte avec des conséquences en termes de croissance structurelle de la demande, de l'investissement et aussi malheureusement de l'endettement qui sont de plus en plus handicapantes pour la croissance américaine. C'est en ce sens que le plan Biden est intéressant parce qu'il suggère quand même un renouveau à la fois de l'industrie et de l'emploi et une redistribution vers ces déshérités quelque part américain qui peut permettre de rééquilibrer l'ensemble. Alors c'est une ambition considérable et face à laquelle il aura sans doute énormément d'embûches, mais voilà, je pense que c'est la bonne voie. Reste à savoir effectivement combien de temps si ça sera suffisant pour rétablir les structures d'économie américaine. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de reprise, on va avoir des chiffres spectaculaires au cours des 3-6 prochains mois, c'est évident. Mais une reprise, ça ne fait pas la croissance structurelle. 2008 nous l'a montré d'ailleurs, si on se souvient la manière dont on est sorti de cette crise profonde.
Alors, Véronique Richflores, vous nous parliez inégalité. C'est le moment de nous mettre de nouveau dans les pas d'Anne Corpet, qui est allée voir ce qu'on appelle la vallée du cancer en Louisiane, à proximité de Baton Rouge, une vallée bordée de 140 usines chimiques, avec une population essentiellement noire américaine, à la santé très affectée par les émanations toxiques de ces usines. C'est un grand reportage qui a été diffusé il y a quelques jours sur RFI, et on écoute un extrait de ce reportage poignant.
Vous voyez tous ces signes sur la route ? Formosa serait une peine de mort pour St. James. Ce sera la pire des usines. Il y aura 14 unités dans ce gros complexe. On ne peut déjà plus respirer et ils vont tripler les émissions toxiques dans le district.
Sharon Lavigne nous emmène sur les routes de sa commune où 3 usines doivent être construites, dont celle de Formosa, une usine de plastique. La localité paye déjà un lourd tribut à l'industrie.
On est sur Burden Lane. Il y a des usines des deux côtés de la rue. Mon amie Géraldine vivait ici. Géraldine est morte. Cette femme là-bas a un cancer. Sa fille aussi a un cancer. La dame là-bas a eu les deux jambes amputées. Croyez-moi, personne n'est en bonne santé.
Le téléphone de Sharon sonne constamment. Elle dirige l'association Rise St. James, qui tente de se battre contre l'arrivée de ces nouvelles usines. Sharon Lavigne ne reconnaît plus la commune où elle a grandi.
Quand j'ai grandi à St. James, il n'y avait aucune usine et il y avait surtout des champs de canne à sucre. L'air était pur, l'eau était propre, les jardins poussaient. On n'était jamais malade. La première usine est arrivée dans les années 60. On ne savait pas que les industries auraient cet impact si important sur notre santé. On ne savait pas. Quand les usines sont arrivées, les gens trouvaient cela formidable. Donc pendant toutes ces années, On a bu de l'eau sale, sans savoir que les industries versaient des produits chimiques dedans, comme du benzène. Tant de gens ne savent pas pourquoi ils ont eu un cancer, pourquoi leurs proches sont morts du cancer. Ils ne savaient pas que les industries causaient toutes nos maladies. On appelle ça l'allée du cancer. Nous, on l'appelle l'allée de la mort, parce que nous vivons dans le couloir de la mort. Nous attendons juste notre tour de mourir.
We call it death alley, because we live in on death row. We just wait our turn to die.
L'allée du cancer, un reportage d'Anne Corpet, un grand reportage que vous pouvez retrouver évidemment sur le site RFI.fr ou en le podcastant sur l'application Pure Radio de RFI. Jérôme Héricourt, ce qui est décrit dans ce reportage, c'est ce que signalait Véronique Riche-Flores, les inégalités à la fois économiques et raciales qu'affrontent les États-Unis. Est-ce que, et Véronique Riche-Flores semblait dire qu'entre les 900 milliards de dollars distribués à l'époque de Trump encore, fin 2020, et les 1900 qui sont distribués par Biden, il y avait non seulement une différence de montant, c'est le double, mais il y avait aussi une différence de nature. Est-ce que ce plan Biden, la première phase du plan, la première phase de la fusée, change quelque chose à la politique du gouvernement fédéral américain fondamentalement ?
Ah oui, très certainement, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Là, c'est là que la différence de philosophie fondamentale entre Trump et Biden est apparue. Là, il y a vraiment dans le plan Biden une volonté, au moins partiellement et à très court terme, de réduire la pauvreté, les inégalités en ciblant par exemple hein, l'un des objectifs du plan c'est de réduire de moitié la pauvreté des enfants à l'horizon de 4 ans. Il y a des aides à la santé des familles pauvres, il y a des hausses des aides fiscales par enfant, il y a des soutiens aux petits propriétaires. Donc je vous parle de montants en centaines de milliards de dollars à chaque fois hein. On a parlé du chèque de 1 400 $, mais il y a aussi le fait que les allocations chômage vont être augmentés, il y aura un supplément de $300 par semaine jusqu'en septembre. Donc il y a une volonté vraiment de cibler la grande pauvreté et les inégalités. Après, sur ce dont parle le reportage, c'est évidemment beaucoup plus large. Ça touche vraiment aux fondements et aux structures de la société américaine et du fonctionnement de son économie. Et ça relève, à mon avis, de l'autre partie de la discussion que nous allons avoir sur le second plan Biden, qui le plan de plus de 2000 milliards de dollars sur le verdissement de l'économie américaine notamment, où là vraiment ce plan il cherche à agir sur la structure de production de l'économie américaine.
Ce plan, Jérôme Héricourt, on va entendre le président Biden en parler maintenant, parce que c'est effectivement peut-être le deuxième étage de la fusée, ce qui marquera définitivement une espèce de rupture avec ce qui s'est fait auparavant. On écoute Joe Biden.
I'm proposing a plan.
Je propose un plan pour la nation qui récompense le travail, pas seulement la fortune, qui construit une économie juste et qui donne à tous une chance de réussir et pourra créer l'économie la plus forte, la plus résiliente, la plus innovante du monde. Ce n'est pas un plan qui tourne autour du pot. Il s'agit de l'investissement d'une génération en Amérique. Son ampleur est inédite depuis qu'on a construit notre réseau autoroutier et depuis la course à l'espace il y a des décennies. En réalité, c'est l'investissement le plus important pour les emplois américains depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela va créer des millions d'emplois bien payés qui vont aider à la croissance de l'économie, nous rendre plus compétitifs dans le monde, pour promouvoir notre intérêt national et nous placer dans la position de l'emporter dans la compétition contre la Chine dans les années qui viennent. C'est gros, oui, c'est audacieux, oui, et nous pouvons le faire.
And we can get it done.
Alors c'était Joe Biden qui expliquait l'importance à ses yeux de ce plan infrastructure. C'était le 31 mars dernier. Jérémy Guez, à quel point est-ce que ce plan, s'il est accepté par le Congrès, parce qu'il faut préciser que pour l'instant ça, c'est à l'état de négociation avec entre démocrates et républicains et avec la Maison Blanche, quelle est l'importance de ce plan. Biden dit le plan le plus important depuis 1945. D'autres disent, prennent une autre comparaison, Roosevelt, donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Quelle est l'importance ?
Oui, et il y a une troisième comparaison historique d'ailleurs avec Lyndon Johnson sur le caractère très transformateur des réformes.
Donc Johnson, c'est 1960, après la mort de Kennedy.
Voilà, 63, oui, absolument, et la Great Society, et voilà. C'est effectivement une question absolument fondamentale, je pense, pour l'économie américaine. Vous savez, l'économiste de Harvard, Rebecca Anderson, a écrit un livre extrêmement intéressant sur ce sujet en disant que l'écosystème américain a été capable de générer des innovations absolument exceptionnelles, mais liées au secteur privé, et beaucoup moins finalement au développement de l'infrastructure, que le système américain était beaucoup plus faible. Et ceux d'entre nous qui connaissons, et j'imagine nombreux autour de cette table virtuelle, qui connaissons l'état des infrastructures américaines, ne serait-ce que lié au téléphone portable ou à l'Internet, c'est assez frappant hein, le contraste qui existe entre les États-Unis et la France.
C'est-à-dire, décrivez-nous ça, parce que tous nos auditeurs ne sont pas allés aux États-Unis, ils ne savent pas.
L'internet, un abonnement Internet coûte autrement plus cher qu'en France, autrement plus cher, pour une rapidité probablement moindre, et même la téléphonie portable coûte cher et n'a pas forcément les mêmes performances que l'on connaît, que l'on peut connaître en France. Ça peut surprendre, mais c'est le cas, parce que finalement, tout ce qui relève de cet écosystème, qui relève non pas des entreprises privées, mais de l'État fédéral, eh bien, n'a pas reçu, en tout cas, l'attention du pouvoir politique que l'on aurait pu imaginer. Et cette problématique, cette préoccupation, elle est au cœur du sujet. Vous vous souvenez peut-être du discours de Barack Obama en 2012, un discours de campagne face à Mitt Romney, dans lequel il disait « You didn't build that », vous n'avez pas construit ça. C'est-à-dire, vous n'avez pas construit ces ponts, vous n'avez pas construit ce système d'éducation, vous n'avez pas construit ce système de santé, et donc tous ces self-made qui revendiquent une victoire énorme finalement de par leur richesse, Barack Obama leur disait faites attention quand même parce que c'est quand même grâce à l'État fédéral derrière. Là, je crois que Joe Biden est en train d'entraîner tout ça à l'étape d'après et d'essayer de renouveler cet écosystème pour faire en sorte qu'il y ait véritablement une égalité d'opportunités.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de la politique économique du nouveau président américain, Joe Biden, avec trois invités. Jérémy Guez, professeur associé à HEC Paris, que vous venez d'entendre. Jérôme Héricourt, qui est professeur d'économie à l'Université de Lille, conseiller scientifique au CEPI. Et avec Véronique Rich-Lorès, économiste indépendante, fondatrice de Rich-Lorès Research. Alors, on va retourner sur le terrain pour un nouveau reportage, parce qu'on parle de la qualité déplorable des infrastructures aux États-Unis. En voilà un exemple. À New York, c'est une question de tunnel qui est sous l'eau et parfois même dans l'eau. Le tunnel qui relie Manhattan au New Jersey et au reste de la côte est des États-Unis. Le tunnel sous l'Hudson est le point ferroviaire le plus utilisé des États-Unis. Il est en très mauvais état. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Lumna Anaki à New York.
À la gare de Penn Station, il ne se passe pas un jour sans que les écrans affichent des trains en retard. Pour les voyageurs qui font la navette entre le New Jersey et New York, les journées sont souvent très longues.
Il y a toujours des problèmes. Une fois, je suis restée 5 heures bloquée dans un train et ensuite, on a dû changer de train.
Parfois, vous avez le choix entre 2 heures d'attente ou prendre un taxi pour rentrer.
En temps normal, quand tout va bien, 450 trains transitent chaque jour par Penn Station avec 200 000 passagers à bord. Les trains passent par un tunnel sous le fleuve Hudson et c'est là que se situe le problème.
Le tunnel a 110 ans, il est vieux.
Greg Fritsch travaille pour l'Amtrak, la compagnie ferroviaire américaine.
En 2012, le tunnel a été inondé par la tempête Sandy. On s'est retrouvé avec des millions de litres d'eau salée dans le tunnel.
Les équipes passent alors des semaines à pomper l'eau pour vider le tunnel. Les dégâts sont réparés, mais les effets du sel et de l'eau posent encore problème aujourd'hui.
Ces éléments causent la détérioration du tunnel. Ça attaque le béton. Donc on est aujourd'hui à un point où ces galeries centenaires sont de moins en moins fiables.
Et cela fait des années que les problèmes se multiplient. Coupures de courant, installations gelées en hiver, signalisation en panne. Il y a même eu plusieurs déraillements. Pour l'Amtrak, la compagnie des trains régionaux et les autorités locales, une seule solution.
La première chose à faire est de construire un nouveau tunnel. mais c'est 7 à 8 ans de travaux et ça veut dire que le tunnel actuel doit tenir jusque-là.
Le projet de reconstruction baptisé Gateway prévoit également la modernisation des rails et des installations de Penn Station ainsi que la construction d'un pont moderne au-dessus de l'Hudson. Le tout devrait coûter plusieurs milliards de dollars. Avec le nouveau plan pour les infrastructures du président Biden, le projet Gateway pourrait enfin voir le jour.
C'est un projet d'une importance nationale et je crois que l'administration Biden en a conscience. Nous sommes optimistes. Il est temps de construire ce projet. Cela fait des années qu'on en parle et on sait qu'il faut que ce soit fait.
En attendant de pouvoir compter sur des infrastructures toutes neuves, l'Amtrak et la compagnie des trains régionaux mènent des réparations ciblées sur le tunnel de l'Hudson. Un travail qui nécessite une organisation minutieuse aux heures où la circulation des trains est moins importante. Le tunnel de l'Hudson est l'un des points les plus importants du pays. Un souci, et c'est tout l'axe Boston-Washington qui est affecté. Une zone qui concentre 20% de l'activité économique du pays.
Un reportage éco-dissico d'ailleurs signé Lumna Anaki à New York. Jérôme Héricourt, on a du mal à comprendre comment un pays aussi puissant peut avoir des infrastructures aussi délabrées, parce que Jérémy Guez, il y a quelques instants, nous parlait du téléphone portable, de son coût, de la mauvaise qualité, de la connexion Internet, mais il y a ce problème ferroviaire, il y a des ponts, il y a des routes qui sont en mauvais état, il y a aussi des adductions d'eau, et Joe Biden l'a dit dans ses interventions diverses, il y a aussi le problème de l'alimentation en eau. Alors comment une puissance aussi importante sur le plan économique que les États-Unis peut avoir des infrastructures aussi délabrées?
C'est clair qu'il y a un sous-investissement structurel dans les infrastructures publiques aux États-Unis, les ponts, les routes, les rails, le tunnel, comme le reportage sur le tunnel de Hudson vient de l'illustrer. Je crois que c'est vraiment à ça que le deuxième plan Biden, le plan que je qualifiais tout à l'heure de plus structurel, cherche à s'attaquer dans une philosophie plus générale de verdissement de l'économie américaine, avec cette idée de fabriquer des infrastructures donc plus solides, rénovées, avec cette idée d'augmenter un peu le potentiel de croissance américain à long terme, mais également des infrastructures qui soient plus résilientes au changement climatique à venir.
Jérôme Héricourt, je précise ma question. Nos auditeurs vivent beaucoup, pour beaucoup d'entre eux, dans les pays africains. Ils savent que leur pays ne peut se développer sans des infrastructures solides, sans des routes, des ponts, des connexions Internet de qualité. Comment un pays comme les États-Unis a-t-il pu soutenir cette économie avec des infrastructures aussi délabrées?
C'est vrai qu'il y a eu un sous-investissement. Il y a eu un sous-investissement pendant des décennies. Il y a le fait effectivement que aux États-Unis, l'intervention du gouvernement est toujours regardé avec méfiance, hein, Jean-Pierre. Il faut garder ça présent à l'esprit. Les deux plans Biden qui sont mis sur la table, à eux deux, c'est 25% du PIB de l'économie américaine. Hein. C'est le PIB de la France plus le PIB de l'Allemagne. C'est absolument énorme.
Comment vont-ils financer ces investissements?
Comment les investissements vont être financés? Alors, il va y avoir deux choses. Il va y avoir évidemment un recours à une fiscalité accrue. On va en parler tout à l'heure.
Non, parlons-en maintenant.
D'accord. Alors, d'abord, ce que Joe Biden souhaite faire, c'est revenir sur une partie des baisses d'impôts, des très substantielles baisses d'impôts consenties par l'administration Trump. Donc, l'administration Trump a abaissé le taux d'imposition sur les sociétés de 35% au niveau où il était à la fin de l'administration Obama à 21%. Donc, une baisse substantielle. Une baisse d'un niveau assez élevé à un niveau assez bas, hein, comparé à la moyenne des pays de l'OCDE. L'idée de l'administration Biden, ce qui est proposé, c'est de ramener ce taux à 28%. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le plan, il va être discuté au Congrès. La majorité de Joe Biden au Sénat, elle est très serrée. Elle est à 50-50, plus la voix de la vice-présidente Harris. Et il y a un sénateur démocrate, Joe Manchin, qui est assez réticent sur ce taux de 28% et qui aimerait plutôt qu'on parle de 24 ou de 25. Mais il y a cette idée déjà, quand même, d'augmenter le taux d'imposition sur les sociétés. Par ailleurs, il y a l'idée aussi, et ça je trouve ça très intéressant, de taxer les bénéfices des entreprises US dans leurs filiales à l'étranger à un taux minimum de 21% contre 10 ou 10,5 ou 13% aujourd'hui. Donc, il y a cette idée donc de recourir à une fiscalité plus élevée sur les entreprises, mais également sur les ménages. Hein. On va taxer les ménages les plus riches, mais évidemment ça ne suffira pas et il va y avoir un recours très substantielle à la dette. On attend la dette publique américaine à plus de 100% du PIB, hein, elle y est probablement déjà, autour de 120% du PIB en 2030 et peut-être autour de 200% du PIB en 2050. Donc on va avoir la combinaison d'un endettement massif et d'une fiscalité plus élevée sur les entreprises et les ménages les plus aisés.
C'est ça la véritable rupture, Véronique Richflores ? La manière de financer ces plans ?
Alors, c'est un début de rupture qui est, pour le dire, vraiment à pas compter. C'est-à-dire que l'ambition budgétaire de Biden est considérable. Si on fait quelques estimations, on voit que les projections, parce que Biden a été élu sur un plan de 10 ans, hein, donc ce ne sont pas seulement les 4 prochaines années qui sont concernées, mais bien au-delà. Dans ce programme électoral, il y avait la volonté de développer l'investissement et les dépenses publiques qui devrait ramener le taux de dépenses et d'investissement public à ces niveaux à peu près des années 70. Hein. Donc, c'est à peu près 7% au-dessus des niveaux présents, ce qui est considérable. C'est une rupture historique, sur le papier au moins. Face à ça, cette ambition, en revanche, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais l'ambition fiscale, elle paraît absolument hors jeu, sans commune mesure. C'est-à-dire qu'on propose de remonter le taux d'imposition sur les sociétés à 28%. On était à 35% quand Trump est arrivé. Il a baissé à 21%. On propose 28%, donc vous voyez à peu près le milieu de fourchette, avec probablement des négociations qui risquent d'abaisser encore le taux final. Donc ce n'est pas par ce biais-là qu'on va financer le retour de l'État dans la vie économique. Quant aux ménages, Biden propose très peu de choses. À peine ose-t-il annoncer une augmentation du taux d'imposition sur les revenus du capital pour les plus riches au-dessus d'un million de revenus. Donc vous voyez que ce n'est pas le grand soir fiscal. Et je pense que c'est une des fragilités en réalité de la présidence Biden, c'est ce déséquilibre parce que bien évidemment, il faudra que Biden aille de l'avant et s'il n'est pas financé par des ressources en provenance des impôts, alors ce sera beaucoup, beaucoup plus de dettes et sans doute également des empêchements d'aller de l'avant par sa majorité qui, rappelons-le nous, est quand même très étroite. Et je pense que c'est une des principales difficultés, effectivement, cette question de comment financer sans oser toucher ou aller chercher l'argent là où il est aux États-Unis.
Vous êtes d'accord, Jérémy Gaz, avec ce point de vue de Véronique Richflores ?
On touche au cœur du problème, effectivement, de comment financer ces ambitions. Alors, effectivement, et d'une, augmenter les impôts de 21 à 28, mes deux camarades ont montré effectivement les limites de tout ça, puisqu'on est quand même à un niveau historiquement bas de taux d'imposition sur le secteur privé. Et puis, il y a aussi en toile de fond un autre débat économique assez fascinant autour de la nouvelle théorie monétaire, telle qu'on l'appelle, et c'est cette idée de dire que finalement les déficits des États importent peu, surtout quand c'est un État comme les États-Unis qui emprunte dans sa propre monnaie et de toute façon qui peut compter sur la bienveillance de sa banque centrale. Cette théorie, elle a été mise au goût, en tout cas, elle existe depuis bien longtemps hein, dans le débat économique, mais elle a été remise au goût du jour par Stephanie Kelton, qui est une ancienne conseillère de Bernie Sanders. Et elle est frappante parce que finalement, elle donne, je pense, à une partie de la classe politique américaine, surtout à la gauche, une espèce de caution qui lui dit « Allez-y, il y a un énorme incendie, il faut l'éteindre ». Le problème, c'est de se demander « Edune, est-ce que l'incendie n'est pas déjà éteint ?» Et structurellement, on risque d'avoir un certain nombre de problèmes. Et le deuxième, c'est de se dire, cette théorie, elle n'a pas entièrement été validée dans les faits. Elle peut être à la source de cette approche de monétisation, on le sait, à la source de bulles financières assez importantes. Et on sait à quel point elle peut déstabiliser l'économie américaine. Et là, on est véritablement en train de toucher, à mon sens en tout cas, au véritable terrain inconnu dans lequel on s'est lancé, non seulement Joe Biden, mais je dirais l'ensemble des pays occidentaux face à une crise vraiment sans précédent.
Jérôme Héricourt, vous pensez aussi qu'il y a un risque de bulle financière, que l'argent débloqué ne financera pas tant les infrastructures que le niveau de vie de la population moyenne américaine, je dirais de la classe moyenne et puis des plus défavorisés, mais que ça ira à Wall Street ?
La question ne se pose pas uniquement en rapport avec ce qui se passe là aux États-Unis maintenant depuis que l'administration Biden est en place. La question se pose depuis la crise de 2008-2009, depuis que les banques centrales se sont lancées en 2008-2009 aux États-Unis, puis avec un peu de retard en Europe, hein, ça a commencé plutôt en 2013, mais depuis que les banques centrales se sont lancées dans ces politiques dites d'assouplissement quantitatif, dans ces politiques monétaires très très expansives, où de fait, elles se sont mises, en l'assumant totalement pour la Réserve fédérale et en le disant un peu moins fort pour la Banque centrale européenne, mais elles se sont mises à racheter la dette des États, et donc à financer et à faire du plus ou moins du financement monétaire des déficits publics. De fait, ça crée des masses financières considérables qui créent une pression à l'inflation sur le prix des actifs financiers. Le fait est qu'en économie, on en est toujours réduit quand on prend une décision de politique économique à faire une analyse coût-bénéfice. Et j'ai entendu Véronique et Jérémy parler d'éteindre l'incendie. C'est exactement ça. On doit arbitrer entre deux risques. L'un qui est celui de laisser la crise continuer aux États-Unis si on fait pas un plan de relance et de soutien suffisant. Et l'autre qui est que si on met trop de moyens sur la table et trop de financement monétaire sur la table, avec une politique monétaire trop expansionniste, eh ben effectivement, on crée des facteurs structurels forts pour alimenter une bulle financière. Évidemment, à court terme, ce qu'on fait, on fait toujours le même calcul économique, qui est qu'on va éteindre l'incendie, on va se préoccuper de la bulle financière après.
Alors, on aborde la dernière partie de cette émission avec un nouveau reportage. On va parler environnement, climat, on l'a déjà évoqué d'une certaine manière avec le reportage d'Anne Corpet dans l'allée du cancer. L'aspect environnemental n'est pas absent de la politique de Joe Biden. On sait que l'une des premières mesures qu'il est annoncée, c'est le retour dans les accords climatiques de Paris, de la puissance américaine. Mais sur le terrain, il reste du travail. Alors bien sûr, tout le monde n'attend pas monts et merveilles de ce plan, de ces plans. Écoutez ce que les milieux pétroliers texans disent du plan Biden. Un reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, signé Thomas Harms à Houston.
Dans le bassin permien, la région désertique entre le Texas et le Nouveau-Mexique, où l'on exploite le pétrole et le gaz de schiste, cette dernière année a été catastrophique. Jesse Mullins est le directeur du Permian Basin Oil and Gas Magazine.
There were bankruptcies, yes. And there have been some...
Il y a eu des faillites, ça oui, il y a eu des fusions-acquisitions, mais maintenant les choses s'améliorent. C'était une année difficile, beaucoup d'entreprises ont été atteintes. Mais j'entends que les choses vont mieux, les gens travaillent, continuent leurs projets, ils conservent leurs emplois. Mais les entreprises ne sont pas en train de se développer, elles sont en suspens. Je ne pense pas que beaucoup de gens partent ou s'installent ici.
Le Texas a complètement rouvert son économie, mais les entreprises du pétrole craignent que leur âge d'or ne soit passé. Jason Modglin est le président de l'Alliance des producteurs d'énergie du Texas.
Remontez un an et demi dans le temps et vous verriez que Odessa, Midland et une bonne partie des villes du bassin Permian étaient en pleine expansion. Il n'y avait pas suffisamment d'hôtels ni de restaurants. Les villes n'arrivaient pas à suivre. Aujourd'hui, beaucoup d'éléments du plan de reprise qui vient du Congrès et de l'administration sont bons pour les producteurs de pétrole et de gaz. Il y a cependant plusieurs initiatives de l'administration Biden qui tendent à privilégier d'autres sources d'énergie qui désavantagent l'industrie fossile.
Et pour cause, l'administration Biden a l'industrie pétrolière dans le viseur, comme l'explique Edward Hirsch, professeur d'économie de l'énergie à l'Université de Houston.
The Biden administration wants to push and promote a lower carbon footprint.
L'administration Biden veut favoriser les industries à empreinte carbone faible ou nulle. Et dans une certaine mesure, il continue de suivre ce qu'Obama avait commencé à mettre en place au début. Des membres de l'administration Biden veulent réduire les émissions de carbone simplement en les coupant à la source. Je m'attends à voir l'administration gagner en maturité sur cette question dans les 2 années à venir, à mesure que la politique va s'ajuster à la réalité.
Aujourd'hui, les entreprises de l'énergie se remettent peu à peu à embaucher. Certaines entreprises s'étaient séparées de 90% de leur personnel.
C'est logique qu'ils aient licencié autant qu'ils aient pu. Ces employés ont pu profiter de meilleures allocations chômage et aussi profiter des aides, des plans de relance de l'administration. l'administration Trump et puis maintenant de l'administration Biden. Ces plans ont vraiment aidé l'industrie fossile comme les autres industries.
Mais au fond, l'industrie pétrolière craint plus cette administration qu'elle n'en attend grand-chose.
Un reportage signé de Thomas Harms. Véronique Rich-Flores, il y a quelque chose d'assez frappant dans ce que disent ces pétroliers texans, enfin ces représentants du secteur pétrolier, c'est qu'ils sont contents que la puissance publique ait pu distribuer des chèques pour qu'ils puissent licencier. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a, dans ce secteur privé ultra concurrentiel qu'est le pétrole texan, une espèce d'attente vis-à-vis de l'État fédéral.
Oui, c'est tout le paradoxe de ces derniers mois finalement, qui va bien au-delà des pétroliers. Hein. C'est quelque chose qu'on a constaté. On attend finalement énormément de l'État fédéral américain pour une économie ou un système qui a plutôt revendiqué effectivement un libéralisme assez clair, assez effréné traditionnellement. Et là encore, on peut, de manière un peu cynique, si je peux dire, regarder ce que font par exemple les indices boursiers américains ces derniers mois, qui applaudissent véritablement au retour de quoi ? Du keynésianisme, avec une teinte schumpeterienne à peine, mais voilà.
Qu'est-ce que c'est que la teinte schumpeterienne ? Alors, le keynésianisme, c'est le retour de l'État fédéral, de la puissance publique, des investissements massifs, etc. Mais alors, la teinte schumpeterienne, là, expliquez-nous en deux mots.
C'est l'idée, effectivement, qu'on va faire de la croissance verte. Avec quel but ? Et finalement, de créer une innovation. Il y a beaucoup de technologies dans ceci, mais surtout un objectif de remplacer de l'ancien par du nouveau. Donc, on va remplacer des automobiles hautement carbonées, hautement polluantes par de l'automobile électrique, etc., etc. Et effectivement, ça donne beaucoup plus de chances de parvenir à réveiller la croissance américaine et en particulier la croissance de l'investissement. Hein, c'est ce qu'avait montré Schumpeter et c'est finalement aujourd'hui un cas de figure qui s'applique à la plupart des politiques de relance parce qu'il ne s'agit pas seulement d'investir ou de solliciter de l'investissement public, il faut arriver à attirer les investissements privés dans le sillage de l'action publique et rien de mieux en cela que de changer le modèle en faveur de la croissance verte qui, par ailleurs, est tout à fait nécessaire. Attention, hein, qu'on ne mésinterprète pas mes propos. Mais donc, il y a effectivement cette volonté et qui crée aujourd'hui un espoir considérable, ce qui est assez paradoxal là encore, puisqu'on sait que les Américains ont quand même freiné des quatre fers au sujet de cette transition environnementale et qu'aujourd'hui, ils applaudissent dès demain toute réforme qui permettrait effectivement d'améliorer les perspectives de croissance d'investissement.
On approche de la fin de l'émission, je voudrais passer la parole à Jérémy Guez. Véronique Rich-Flores, excusez-moi de vous avoir interrompu. Jérémy Guez, je citais au début de l'émission, le titre de votre livre « États-Unis, déclin improbable, rebond impossible », c'était en 2018. 3 ans plus tard, vous republieriez le livre avec le même titre ?
Peut-être pas d'ailleurs. Le rebond est peut-être un peu plus facile désormais qu'il ne l'était il y a 3 ans. Si vous voulez, il y a 3 ans, ce qui était absolument frappant, c'était les divisions profondes que l'Amérique connaissait. Aujourd'hui, ce qui est assez intéressant avec cette approche de Joe Biden, c'est de se dire que ces divisions risquent de persister, mais il existe quand même un dénominateur commun, à savoir l'économie. Et si on arrive à réconcilier ce pays, ça sera probablement à travers l'économie. Et quelque chose me dit que c'est le calcul aujourd'hui politique de Joe Biden d'utiliser cette variable économique pour essayer de réconcilier tout un pays. Mais on a bien senti pendant toute cette émission à quel point la tâche était énorme.
Cette émission est terminée. Elle se termine sur ce message d'espoir. Merci à vous trois, Jérémy Guez, Jérôme Héricourt, Véronique Rich-Flores, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Merci aux documentations écrites et sonores de RFI pour leur concours indispensable pour réaliser cette émission. Merci à Guillaume Munier, le réalisateur, dont vous avez entendu également la voix sur certains reportages. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.